Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
François Pignet.
Il est 18h passé de 1 minute, c'est le RMC Football Show comme tous les jours pendant l'été. Vous le savez, on parle de foot pendant 2 heures jusqu'à 20h avec ce soir Frédéric Piquion. Salut Fred.
Bonsoir à tous.
Il a vibré forcément ce matin pour l'équipe de France de foot à Tokyo.
J'ai vibré à partir de la 80e, je préfère te le dire.
Ouais, c'est sûr qu'à la mi-temps, on avait tous envie de zapper, mais finalement on est resté, on a bien fait. Victoire 4-3 contre l'Afrique du Sud. L'équipe de France olympique qui est relancée, on va en parler évidemment dans ce RMC Football Show. Un match complètement fou, heureusement que André-Pierre Gignac était là, lui qui a inscrit un triplé. On entendra les Français bien sûr, et puis on vous entendra vous au 32-16. N'hésitez pas à dès maintenant faire le 32-16 pour venir parler de ce petit miracle français. Est-ce qu'il ne faut retenir que la victoire, comme j'ai pu le lire sur un tweet d'un célèbre Frédéric Piquion, qui nous a dit c'est l'essentiel, un but de plus que l'adversaire, le reste on verra après.
Et je l'ai dit hier soir en plus.
Est-ce que tu as tweeté? Oui,
je l'ai dit hier soir dans l'after, du moment qu'on gagne avec un but de plus que l'adversaire, après on verra pour la suite.
C'est la vision de Frédéric Piquion. Vous venez nous dire au 32-16 si vous êtes d'accord, ou est-ce que ce miracle ne change rien au problème, parce qu'il y en a des problèmes dans cette équipe de France.
Les règles après.
Vous venez nous le dire au 32-16 sur le hashtag RMC Live sur Twitter dès maintenant ou sur l'appli RMC Direct Studio, je lirai vos messages. Dans 30 minutes, Stéphane Moulin est le nouvel entraîneur de Caen. Vous le savez, il sera en direct avec nous. Il est également leader de Ligue 2 avec Thierry Loret d'ailleurs, les deux qui descendent
de partager ça
de Ligue 1.
Il faudra poser la question, ils ont gagné tous les deux 4-0. Il y en a un qui a gagné à l'extérieur et l'autre
à domicile. J'ai vu que Paris FC était devant Caen, ouais, c'est vrai, au classement. Voilà. Alors, on avait sur égalité, on va dire. Les Canucks ont largement remporté effectivement leur première victoire, premier match de la saison, 4-0 face à Rodez. Après avoir frôlé la relégation, c'est un nouveau départ justement qui s'annonce pour le Stade Malherbe de Caen. Supporters Canucks, on vous attend aussi au 32-16 si vous voulez parler à votre nouveau coach. Et puis à partir de 19h, notre Tour de France des clubs qui s'arrête cette fois à Angers, justement. Gérald Baticle est le successeur de Stéphane Moulin sur le banc d'Angers. Il sera avec nous en direct à 19h. Le mercato, la préparation, les objectifs.
Et c'est pas
aussi
du tout fait exprès.
Son style de jeu, non, c'est pas fait exprès du tout. Le style de jeu de Gérald Baticle, on va lui demander évidemment sa philosophie.
Bien sûr.
Parce qu'on ne sait pas exactement quel entraîneur il est. N'hésitez pas, supporters angevins également, à poser vos questions dès maintenant sur l'hashtag AMC Live, sur Twitter, sur l'appli RMC Direct Studio et au 32-16, bien sûr, si vous avez envie de poser une question directement à votre entraîneur. Et puis, on avait besoin de soleil dans le RMC Football Show. C'est vrai qu'aujourd'hui, à Paris, c'était pas génial. Spécial Côte d'Azur, du coup, on a décidé à 19h30.
Attends.
Les dernières infos sur l'AS Monaco, sur l'OGC Nice avec notre correspondant Clément Brossard. On viendra notamment sur les propos de Christophe Galtier qui a parlé de problèmes de niveau pour les joueurs de Nice hier soir, sur le mercato de Nice bien sûr et sur celui de l'AS Monaco. Vos questions aussi au 32-16. On vous attend pendant 2 heures sur l'appli RMC Direct Studio et sur le hashtag RMC Live sur Twitter avec Fred Piquion.
La une du RMC Football Show.
Ce miracle donc, le miracle de Tokyo, il y a eu évidemment la médaille d'or pour l'escrimeur français, on y reviendra bien sûr dès 20h avec Thibaut Jean-Grande dans l'After Tokyo 2020, cette première médaille d'or pour Romain Cannon.
Je voudrais dire, c'est que, tu vois, par exemple l'escrime ou l'épée, je ne suis pas un adepte, mais les JO... Dès que c'est la France, bah voilà, on est là, on est vite.
Et on regarde les
et
scènes.
Ça, c'est top.
C'est vrai, c'est vrai. Et ça fait des très, très beaux moments. Alors, la France du foot, puisque là, on est dans le RMC Football Show, la France olympique qui bat l'Afrique du Sud dans un scénario complètement fou, en toute fin de match, et qui peut encore croire à la qualification. On va en parler, bien sûr. Deuxième match de l'équipe de France olympique à Tokyo. On se souvient de la déroute contre le Mexique 4-1.
Tout à fait.
La victoire 4-3. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud qui a mené 3 fois au score. À chaque fois, André-Pierre Gignac a égalisé quasiment dans les minutes qui ont suivi. Et c'est TJ Savanier qui marque le but de la victoire à la 92e minute. C'est un miracle parce que quelques minutes après, il y a aussi une énorme occasion pour un joueur sud-africain qui rate son geste devant le but vide de Bernard Denis.
Et il porte bien son nom.
Il s'appelle Fleur, exactement. Fleur qui nous fait une belle fleur, celui-là. En tout cas, c'est une victoire qui permet à la France de croire encore à la qualification pour les quarts de finale. Faut faire un petit calcul. Ça sera compliqué quand même parce que le Japon s'est imposé 2-1 contre le Mexique. Au classement, le Japon a 6 points avec une différence de but de plus 2. Le Mexique, 3 points avec une différence de but de plus 2. La France, 3 points également, mais une mauvaise différence de but, moins 2. Et l'Afrique du Sud, avec 0 point, est déjà éliminée. Le prochain match des Bleus, ça sera face au Japon, 13h30, heure française, mercredi, alors que le Mexique jouera contre l'Afrique du Sud. Il y a encore évidemment le destin en main pour cette équipe française, puisqu'elle doit battre le Japon par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Je te propose d'écouter Paul Bernardoni, le gardien, qui était en direct tout à l'heure sur RMC, qui raconte ce match complètement fou et les émotions qui l'ont traversé.
Beaucoup, beaucoup d'émotions. Et on est passé un petit peu par tous les états. À la 85e, on se dit, on rentre à Paris. Et puis, au final, on 2 minutes après, on se dit, au final, non. Et on est encore dans le match. Et je pense que c'est, on le mérite parce que tout n'est pas simple. Depuis le début, tout n'est pas simple. C'est une juste récompense pour des mecs qui sont contents d'être là, qui ont envie d'être là. Alors c'est pas simple parce que ça fait que 2 semaines qu'on se connaît et automatiquement en 2 semaines c'est compliqué de trouver énormément d'automatisme. Mais en tout cas on a un cœur gros comme ça et ça fait du bien.
Du cœur, c'est vrai, mais que de difficultés pour cette équipe de France. Est-ce que, comme tu l'as écrit sur Twitter, on retient uniquement la victoire? Oui, mais parce que moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ce tweet. On peut en parler, on peut en discuter, bien sûr. Si vous êtes comme Fred, je vous rappelle, 32-16, et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, le 32-16 ouvert, bien sûr.
Oui, j'ai écrit ça parce que, comme l'a rappelé Paul Bernardoni, ça fait à peine 15 jours qu'ils se connaissent, et que forcément, en 15 jours, on n'a pas le temps de monter un collectif très huilé, avec des automatismes, même si on sait qu'il y a, que Sylvain Ripoll, c'est pas non plus le maître en la matière au niveau collectif et situation offensive et même situation offensive et même beau jeu de l'équipe de France. Mais après moi je dis on est dans une compétition, il y a très peu de matchs. Un match contre le Mexique où on a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Là, il fallait juste marquer un but de plus que l'adversaire et ils ont été la chercher avec les triples et ça c'est appréciable et il faut le noter. Après, il y a quand même des joueurs avec une expérience exceptionnelle. Je pense à bien évidemment Audrey-Pierre Gignac qui a montré le chemin, qui a cru jusqu'au bout et qui a emmené cette équipe de France à au moins l'égalisation. Et puis après c'est Savagnier qui a terminé le travail. À noter que Savagnier quand même c'est un élément essentiel d'une équipe de Montpellier et que bravo aux dirigeants de Montpellier de l'avoir laissé partir parce que c'est un joueur.
Ça n'a pas été le cas effectivement de tous les dirigeants de Ligue 1. C'est ce que tu notais, c'est
de toutes les les équipes. Mais moi, je trouve que pour l'instant, même si le jeu d'équipe de France il est pas exceptionnel, il fallait prendre des points, il fallait gagner. Peut-être que cette victoire va lancer enfin peut-être un collectif que tout le monde va tirer dans le même sens et on aura peut-être aussi une surprise au bout.
Là, ça franchement, t'y crois vraiment ça? Ce que tu dis là, ce que t'es en train de dire, est-ce que tu crois vraiment que cette équipe, elle peut aller au bout? Alors, on parle toujours, effectivement, parfois de match déclic.
Ouais.
Peut-être. Mais honnêtement, par rapport au fond de jeu proposé par cette équipe de France sur les deux rencontres.
Franchement, c'était compliqué. Franchement, je voulais dire.
On ne peut pas imaginer qu'elle puisse aller au bout.
Enfin, la première mi-temps, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et on a eu le pénalty raté. On a eu un poteau où le joueur, il a eu une spontanéité dans le geste. Même Bernardoni, il est resté sur les talons, il pouvait rien faire. Et aussi, il a eu quelques arrêts aussi, Bernardoni. Il faut lui tirer aussi un grand coup de chapeau sur cette première mi-temps qui a laissé la France en vie parce que à 2-3-0 à la mi-temps, le match n'est pas le même. Donc oui. C'est compliqué. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est en troisième match. Peut-être que la France sera un petit peu plus fraîche que le Japon.
Mais non, mais t'y crois même pas.
Mais si, j'y crois.
Parce que tu vois ces joueurs-là.
J'y crois. Franchement, j'y crois. J'y crois parce que.
Et tu te dis sur un coup de dé, ils vont commencer à bien se mettre à jouer ensemble alors que.
Non, c'est pas bien joué. C'est prendre des points. C'est pas forcément bien joué.
Cite-moi une équipe, honnêtement, qui a réussi à gagner une grande compétition, avec miracle sur miracle, en faisant des miracles sur miracle. Tu vas peut-être me dire l'équipe de France 2018, où il y a eu quelques miracles.
L'équipe de France,
mais il n'y a pas eu que ça non plus dans l'équipe de France 2018.
Il y a peut-être le Barça avec Messi, quand il est en pleine forme, et miraculeusement, lui aussi.
Non, mais il y a des fonds de jeu avec le Barça.
Il y a un fond de jeu, mais je veux dire, quelquefois, il n'y avait pas forcément de fond de jeu, et lui, il arrive à débloquer des situations.
Réussir à gagner une compétition comme ça, en gagnant les matchs par miracle, parce que honnêtement, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que c'est un miracle.
Oui, on revient de très très loin et c'est un miracle. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je suis tout à fait d'accord.
La question que je me pose, c'est effectivement comment on peut d'un coup se mettre à jouer correctement, convenablement, parce qu'il y a des joueurs. On va parler des joueurs en priorité, notamment Gignac, parce que lui, vraiment, il sort la tête de l'eau, évidemment. Mais il y a des joueurs qui ont vraiment du mal. Je pense à Thauvin, par exemple. Ah, on avait vu en grande difficulté lors du premier match, et là, c'est la même chose.
Là aussi, ouais. Là, c'était la cata. On l'a vu rater des contrôles inadmissibles, même dans ses intentions de jeu, ça a été catastrophique. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il en manque de compétition? Il en manque de physique aussi, puisqu'il était avant de repartir, il a pas forcément fait une prépa. Et même si il a fini la saison avec l'Olympique de Marseille, mais je trouve très emprunté. C'est vrai qu'il est physiquement, en tout cas, il est pas dedans, ouais, par rapport à certains joueurs, oui.
Et par rapport à Gignac notamment, donc le héros de cette rencontre avec un triplé. On va écouter Paul Bernardoni justement quand il parle de Gignac. C'était également tout à l'heure en direct sur RMC.
Comme j'ai dit, papa a fait le boulot. Papa a fait le boulot, donc non, mais bien évidemment, ça aide. Alors après, je veux pas, il y a pas que Dédé, bien évidemment. Je pense aussi, Lucas et moi, nous on est là depuis le début de cette campagne, donc depuis 4 ans. Et donc automatiquement, on injecte aussi cette motivation. On fait comprendre qu'il y a une histoire aussi derrière ça, parce que c'est pas anodin non plus qu'on en soit là.
Alors, le 32-16, bien sûr, pour réagir, vous venez nous dire ce que vous avez pensé de cette équipe de France olympique. Si vous la voyez, pourquoi pas faire un miracle et justement aller jusqu'au bout grâce à André-Pierre Gignac. Sur Gignac, quand même, pour le coup, on sent qu'il est investi de quelque chose.
Mais depuis,
il a le brassard de capitaine, peut-être que c'est pas anodin aussi.
Non, mais oui, et puis ça porte forcément le joueur à montrer l'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Sylvain Ripoll lui a pas donné par hasard, hein, de toute manière, parce qu'il arrive dans une équipe où il connaît personne. Il l'a dit, hein, Bernardoni, j'ai bien écouté son ITV, et ils se connaissaient pas, ils apprennent à se connaître, et je pense que ce genre de match permet justement à ressouder certaines personnes. Alors, il a expliqué aussi qu'ils étaient dans le village olympique, donc ils arrivaient pas forcément à tous se retrouver au même endroit au même moment. Là, ils changent de lieu, ils sont dans un hôtel, donc là, ils vont être un peu plus en mode foot normal, avec voilà, l'hôtel, des réceptions, des réunions où ça va être un peu plus simple pour le coach de trouver une cohésion. Mais moi je dis quand même, le miracle peut arriver sur quelques matchs. Il en reste un où ça sera une finale contre le Japon, et ensuite ça sera 3 matchs pour aller au bout. Donc
de Japon, et
au moins une médaille, ça peut être possible.
Oui, déjà, faut passer ce tour. Effectivement, faudra battre le Japon, je le répète, par au moins 2 buts d'écart. Le Japon qui a remporté ses 2 rencontres, hein, contre le Mexique et contre...
Démobilisé, le Japon, ils vont jouer avec l'équipe numéro 2.
Oui, mais ils peuvent sortir sur les balles. Il vaut mieux pas qu'ils soient démobilisés. Tiens, puisque je posais cette question, je te la posais, Fred, ouais, sur le côté, est-ce qu'il y a une équipe comme ça qui a gagné une grande compétition en ne faisant quasiment que des miracles et sans vraiment de fond de jeu? J'ai quelques réponses là sur le hashtag AMC Live, notamment Olivier qui nous dit le Portugal, meilleur troisième en 2016 et qui finalement gagne l'Euro. Alors c'est vrai qu'il y a eu des miracles en phase de groupe. Après, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des miracles à chaque fois? Peut-être. C'était surtout un style de jeu à la portugaise qui n'était pas forcément très flamboyant, mais qui a permis au Portugal de gagner. Et puis il y a Clément aussi qui nous cite le Portugal à l'Euro 2016 et la Grèce à l'Euro 2004 aussi. Qui, c'est vrai, avait surpris tout le monde. Mais est-ce qu'on pouvait parler de miracle quand elle bat la France 1-0? Je me souviens pas d'une victoire miraculeuse de la Grèce. C'était une victoire, pour le coup, construite face à une équipe de France peut-être.
Mais il faut faire, écoute, en difficulté. On fait le dos rond. On a été chercher ça, cette victoire avec les tripes. On a pris les points. Et puis après, c'est clair qu'il va falloir avoir une réflexion autour déjà de cette sélection espoir, et puis autour des Jeux Olympiques, est-ce que c'est important pour la France ou pas? C'est ça en fait le maître mot, parce que si tu fais tout pour que les espoirs se qualifient pour des finales d'Euro et pour les Jeux Olympiques, il faut les jouer à fond ces compétitions.
Tu sais quoi, on va en parler dans un instant de tout ça justement. Que faire pour donner de la valeur à ce football aux Jeux Olympiques? Que faire pour les espoirs aussi, parce que on a des super générations à chaque fois, et on se demande franchement s'il y a toujours le bon coach au bon endroit. Je ne sais pas si tu te poses pas cette question également. On en parlera bien sûr dans un instant avec vous au 32-16. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le RMC Football Show pour parler de cette équipe de France olympique, donc victorieuse miraculeusement 4-3 face à l'Afrique du Sud. On revient dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC Football Show, François Pignet.
18h16 sur RMC, on est avec Fred Piquion dans le RMC Football Show. Dans un instant, notre invité sera Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Tu as vécu hier la victoire Canet sur RMC, victoire 4-0 contre Rodez. On en parlera avec lui, hein, de ce nouveau départ pour Stéphane Moulin, qui a passé des années à Angers et qui veut sans doute essayer de faire remonter Caen en première division, en Ligue 1, après 10 ans passés à Angers. C'est un nouveau club, il nous racontera comment il appréhende cette saison avec Caen, le mercato également, et puis les objectifs du club. Supporter Canet, on vous attend au 32-16, n'hésitez pas. On vous attend également au 32-16 pour parler de cette équipe de France Olympique. On en parlait à l'instant avec Fred Piquion. On a beaucoup parlé du match. Il y a peut-être un joueur, toi, tu veux ressortir en plus de Gignac ou pas du tout? Si tu veux en ressortir un du collectif,
De
façon positive, Bernard Denis.
Bien sûr, ouais. Positif, bien sûr, parce qu'il a fait quand même des arrêts importants, surtout en première mi-temps. Et puis, comme il l'a dit, avec lui et Lucas Touzard sont quand même des personnes qui étaient là depuis 4 ans.
Ils ont qualifié l'équipe de France, et qui donnent aussi
l'exemple sur le terrain. Maintenant, autour d'eux, il y a des joueurs qu'il faut bien évidemment qu'ils montent leur niveau de jeu et surtout être responsables. Sur le plan défensif, ouais. Parce que c'est là qu'on a vraiment beaucoup péché, être beaucoup plus hargneux, aller vraiment au contact des joueurs, être beaucoup plus serein aussi et dégager un peu plus de sérénité défensive.
Clément Michelin, grosse difficulté aussi sur cette rencontre, hein, le joueur lensois, l'arrière droit. Moi, j'ai bien aimé Colomoigny dans la case positive.
Dans la percussion.
Il a tenté des choses, effectivement. Ouais. Et puis, évidemment, Savanier pour son but qui permet encore de maintenir l'espoir pour l'équipe de France.
Il y a une action comme ça hein, sur la première mi-temps qui m'a marqué, c'est que Savanier, à un moment donné, lui donne le ballon et il rate son contrôle. Le ballon lui passe en dessous. Mais malgré tout, il se retourne et il va, il s'arrache. Et le ballon, il est vraiment entre deux. Et le joueur qui était à côté, je ne sais plus qui c'était, il le regarde. Comme si le ballon, il va arriver tout seul. Mais non, là, Savanier, il le regarde, il va crier dessus en lui disant vas-y, mais viens chercher le ballon, attaque, fais quelque chose, tu vois.
Mais ça, c'est un problème, quoi.
Et ça, c'est un souci.
C'est un gros souci. Vincent a fait le 32-16 à 18h18 sur RMC. Salut Vincent.
Bonjour.
On parlait de cette équipe de France Olympique. Bonjour Vincent. Tu as regardé le match?
Ouais, j'ai regardé le match. C'était exceptionnellement poussif.
Ouais, je suis d'accord.
Le minimum qu'on puisse dire. Et défensivement, je pense que c'est très compliqué.
Ouais.
Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour aller plus loin, je pense. Hein. Même s'ils sont capables de gagner de plus de buts contre le Japon, je pense qu'ils en sont capables. Mais clairement, je pense qu'on peut pas faire de miracle avec une équipe concrète comme ça du jour au lendemain, entre guillemets. Qu'on pas l'habitude, mais on met des anciens, des jeunes. On se dit, bon, bah, allez, il y a Savanier, il y a Gignac, il y a Thauvin. Bon, Thauvin, inexistant, ça sert à rien d'en rajouter, mais on sait qu'il est plus du tout au niveau dans lequel il était auparavant. Pardon. Et donc, voilà. Donc, franchement, je pense que c'est possible contre le Japon, mais, pour arriver où? Je pense pas très loin quand même. Je pense pas.
Il y a des équipes qui sont plus rodées.
C'est possible. Ouais, voilà. Il y a des équipes plus rodées.
L'Espagne.
Le football, voilà. On n'est pas là. Ça, c'est pas un côté match à chaque match, quoi. On est d'accord. Mm-hmm. Le football, il y a un moment où c'est des équipes, quoi.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Vincent.
Ça va être compliqué.
Effectivement. Après, tu leur trouves quand même, visiblement, aussi des circonstances atténuantes. Cette façon, ce puzzle un peu de 1000 pièces, de 10 000 pièces bien à faire en quelques secondes par Sylvain Ripoll.
Bien sûr.
Ouais.
Et puis, Sylvain Ripoll, comme vous l'avez dit, très fin tacticien. Donc, de toute façon, à part compter sur Gignac, la vérité, il convoit Savanier, Gignac, Thauvin, le reste, je ne sais même pas comment ça se passe à l'entraînement. Est-ce qu'il a vraiment une tactique de jeu franchement, je ne saurais pas vous dire. Contre le Mexique, catastrophique le premier match. Là, ils s'en sortent, on est d'accord. On se demande comment. Parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment un hold-up pour eux, je pense. Ils méritaient.
Ouais.
Je pense qu'ils ne méritent pas de perdre, en tout cas. Quoi.
Sur la première mi-temps, ils méritent au moins d'ouvrir le score.
Non, mais même techniquement, il y avait une classe d'écart entre les joueurs sud-africains et l'équipe de France.
C'est ça qui est incroyable.
Même
c'est
techniquement,
sur le papier,
des gestes techniques.
Sur le papier, on se dit, on est au-dessus.
Ouais.
Après, ça fonctionne pas. Il y a des conneries en défense et tout, d'accord. Mais en fait, on se rend compte que même techniquement, on est en dessous. Donc, je vois pas comment cette équipe de France, comment est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher quelque chose.
Avec le cœur.
Ouais. Et encore. Il va falloir avoir un gros cœur.
Oui, et ça suffit pas toujours. Non, mais Vincent, juste un mot d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle de Sylvain Ripoll, Fred, et le problème de l'équipe de France Espoir, c'est un problème récurrent. Avec Sylvain Ripoll, on a vu aussi l'échec à l'Euro. C'était peut-être pas une bonne idée de le confirmer pour ces Jeux Olympiques.
Ben, je me demande en fait, je me demande quelle est la raison. Pourquoi
le délai est trop court, les amis. le délai est trop peut-être, court entre la phase finale de l'Euro et...
Tu changes et carrément toute l'équipe, tu peux changer le sélectionneur, il n'y a pas une question de délai.
Tu changes l'équipe à cause, des circonstances qu'on connaît. Maintenant, les sélectionneurs ou pas, là, de toute façon... peut-être que Le Gret, tu lui as demandé d'aller dans le dernier carré, on sait pas.
Hein. j'ai pas entendu l'objectif.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, il y aura une réflexion après les JO, il y aura sûrement une prise de conscience aussi du football français au niveau des jeunes et au niveau formation. Et puis peut-être qu'on ira chercher un autre sélectionneur. Je sais pas, hein, je suis pas dans les petits papiers.
Et puis aussi après sur le terrain, c'est pas lui qui est sur le terrain non plus. On voit que franchement, techniquement, ils sont en dessous nos joueurs. C'est pas normal que l'équipe de France joue comme ça. Ils jouent tous dans des grands clubs, qu'ils soient jeunes ou pas.
La plupart.
Je veux dire, c'est vraiment très très médiocre. Après, je suis d'accord, Ripoll, bon, c'est pas un très fin tacticien, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, c'est pas lui qui est sur le terrain non plus. Pour moi, c'est inadmissible.
Non, mais t'as raison.
On voit des choses, c'est pas normal.
T'as des contrôles ratés, des passes à deux mètres qui vont en touche.
C'est pas normal. Ripoll, oui, certes, bien sûr, hein, on va pas dire. Bien sûr, Ripoll, il est en tort, mais les joueurs, ils sont sur le terrain et c'est pas normal.
Non, mais tu as raison, Vincent. T'as raison. Faut pas s'en prendre uniquement au sélectionneur. T'as raison. Quand il y a une bouillie de football, c'est aussi de la faute des joueurs.
Mais voilà quoi. Je les vois pas aller bien loin. Mais bon, peut-être qu'ils vont me faire mentir. On verra.
On suivra ça en tout cas. Ce sera mercredi, le match contre le Japon, déjà la prochaine étape. Merci beaucoup, Vincent, en tout cas, d'être venu avec nous sur RMC. À bientôt sur RMC, d'avoir fait le 32-16. Si, comme Vincent, vous voulez réagir à tout ça, à cette actu olympique de l'équipe de France, vous venez au 32-16. Juste pour poursuivre quand même cette discussion sur les espoirs, il y a quand même souvent eu des problèmes avec les espoirs. C'est-à-dire que on dit toujours qu'il y a une énorme génération en France. Très régulièrement, on dit que ce sont des super joueurs qui, c'est vrai, dans leur club, souvent performent ou sont réclamés par des plus grands clubs européens. Et quand ils sont ensemble, alors est-ce que c'est un problème de coach? Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie justement d'aller jouer en espoir et qu'ils pensent tout de suite au A? Quel est vraiment le problème? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on se dit on a une super génération. Alors là, outre les problèmes évidemment qu'a eu Sylvain Ripoll pour construire sa liste, mais on a une super génération. Et les espoirs, ils n'ont pas des résultats qu'on
attend. Franchement, je sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur quand il arrive en espoir, ou même ce qui peut se passer à l'intérieur du groupe. Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il n'y a pas de clans? Est-ce qu'il y en a qui se prennent pour d'autres? Et ça s'est vu, on connaît, hein, dans un vestiaire. Est-ce qu'il y a des égos plus forts que d'autres? Est-ce que on garde cette humilité de se dire moi je joue peut-être au Real Madrid et toi tu joues à Brest. Est-ce que je me prends pas pour un autre, tu vois? C'est ça aussi l'ego. Est-ce qu'on a cette forme d'humilité pour te dire on est dans une équipe et on va essayer d'aller au bout tous ensemble, même si moi je joue au Real, moi je joue à Barça, moi je joue à Mönchengladbach, moi je joue à Genk, tu vois.
Il y a peut-être quelque chose aussi, c'est que le maillot de l'équipe de France Espoir n'intéresse pas vraiment les joueurs.
Tu penses?
J'ai l'impression quand ils vont en A, après les mêmes, hein, bon, il y a Didier Deschamps qui est quand même le symbole justement de cette équipe de France qui gagne, etc. Même si c'est moins vrai là ces derniers temps, mais voilà, il était le symbole de ça, cette garantie. Et je trouve qu'en espoir, peut-être qu'on ne respecte pas assez ce maillot. On dit que le maillot espoir, c'est juste peut-être une étape.
Parce que ça va trop vite aussi
pour aller en équipe de France, peut-être. Mais peut-être parce qu'on les monte aussi trop vite. Hein.
Ouais, peut-être aussi. C'est clair qu'à un moment donné, si tu regardes les espoirs des autres équipes, à part si vraiment il y a un phénomène, elles restent 3-4 ans dans la même équipe et ils jouent tous ensemble. Maintenant, en espoir, ça se trouve, on met doublé vite fait dans un match d'espoir et le lendemain, c'est tout de suite écrit « Ah, lui, on le verrait bien avec les A ». Donc ça aussi, ça peut monter au cerveau de certains et dès qu'ils redescendent, c'est compliqué aussi. Ouais, hein. Ouais. Donc voilà, j'ai pas la science infuse. Moi, j'espère juste que voilà cette formation d'espoir, justement, cette post-formation, parce que c'est ça aussi, les espoirs, c'est de la post-formation, c'est des joueurs de moins de 23 ans et qui sont là pour normalement la plupart doivent aller compléter les A. Et ça, c'est la vérité. Donc je sais pas ce qui peut se passer.
Alors là, dans cette équipe, franchement, s'il y en a qui vont en équipe de France A, là, dans l'équipe que l'on voit en ce moment aux Jeux Olympiques, ils y sont pas encore.
Ils sont très très loin.
Ils en sont même très très loin, évidemment. Juste un mot aussi, parce que les espoirs n'ont plus rien gagné depuis 88. Hein, c'est pour ça qu'on dit ça. C'était l'Euro à l'époque, et puis les JO c'était en 84, mais c'était pas des espoirs, c'était pas exactement les jeunes à l'époque.
C'est la question que je posais justement à Dominique Bigeotin.
Ouais, quand il était avec nous sur RMC.
Avant, on avait l'équipe de France A.
Ouais.
Et les A prime.
C'est ça.
Et toi, t'as fait les et moi j'ai fait la prime d'ailleurs ouais. avec Raymond Domenech et c'était j'ai joué avec Zebina et tout et c'était bizarre.
C'était normalement la porte d'entrée pour l'équipe de France.
Et c'était la porte d'entrée pour aller en équipe de France A. Donc moi j'ai fait ma sélection avec l'équipe de France et après pendant l'été il y a eu juste un match je sais plus dans quel pays il avait fait un groupe élargi. Et il y avait les A et les A prime.
Ouais, peut-être qu'il faudrait relancer ça, cette liste de A prime, pourquoi pas. Bon, s'ils n'ont pas envie déjà d'aller en espoir, je ne sais pas s'ils iront en A prime.
Ah, y en a qui ont fait la gueule.
Quelques messages rapidement sur l'appli RMC Direct Studio concernant cette équipe de France Olympique. Il y a Jérôme qui nous dit, à juste titre, si la France gagne 1-0 contre le Japon et que le Mexique ne gagne pas, on sera qualifié, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Mmh. Il a raison, mais en même temps, le Mexique affronte l'Afrique du Sud déjà éliminée. Et puis, Franck qui nous dit, pour aller loin dans la compétition, il faut être solide défensivement. Or, ils sont nuls derrière. Michelin, c'est un joueur de foot. Franchement, aucune chance. Voilà, il est un peu dur avec Clément Michelin parce qu'il a fait des bons matchs avec Lens. Mais
exactement, on peut se rater aujourd'hui. Sur un match et se remettre en question. On ne sait pas.
Et Fernando nous dit, c'est une question de mentalité. Les gars sont meilleurs à l'étranger que quand ils jouent avec l'équipe de France espoir. Et puis Jamal nous dit difficile d'être optimiste avec ce résultat. Les Sud-Africains ont tapé sur le poteau, ont raté un pénalty, ça on l'a dit effectivement. Les Français ont gagné avec les tripes et la chance. Ce n'est pas suffisant pour battre une équipe contre eux. Comme le Japon, on verra justement si ça sera suffisant. Ça sera mercredi.
On sera devant la télé.
Le rendez-vous est pris 13h30 exactement. Ça sera à suivre bien sûr aussi sur RMC. Et puis on en parlera dans les RMC Football Show tout mercredi soir de ce France-Japon pour savoir si l'équipe de France a réussi un nouveau miracle du côté de Tokyo. Allez, on va revenir sur notre Ligue 2 maintenant, puisque dans un instant, notre invité, c'est Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen, qui a gagné 4-0 son premier match de la saison contre Rodez. A tout de suite.
RMC Football Show, François
Pinet. 18h29 sur RMC, le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Fred Piquion qui est à mes côtés, avec vous aussi bien sûr au 32-16. Dans un instant, il y aura les dernières infos mercato du jour avec une bonne nouvelle pour vous, supporters de Marseille. Faites le 32-16, on va parler d'une nouvelle recrue à l'OM. Vous le connaissez déjà, c'est Lirola, mais c'est très très proche de se faire. On vous en parle dans un instant.
Ça fait un mois que c'est très très proche.
Ouais, mais là c'est encore plus proche que proche. Ça se rapproche de plus en plus. Fred, c'est comme ça le mercato.
Non, c'est très bonne nouvelle.
On a des bonnes infos de notre ami Loïc Tanzi qui va nous en parler.
Ah oui, Loïc est sur tous les fronts.
De Varane à Manchester United aussi. Parce que là aussi c'est très très proche.
Oh là là.
On va vous le dire tout ça.
C'est beau.
À 19h, notre Tour des France des clubs s'arrête aujourd'hui à Angers. On sera avec Gérald Baticle, le nouveau coach du SCO. Alors forcément, quand on parle du SCO, on pense à Stéphane Moulin, entraîneur désormais de Caen en Ligue 2. Il va être avec nous dans un instant en direct, le temps juste de revivre la belle victoire de Caen. C'était hier face à Rodez avec Christophe Lécuyer au commentaire pour RMC.
Et le but à Caen, l'ouverture du score pour le Stade Malherbe après seulement 20 secondes de jeu par Alexandre Mendy. Et le but, le deuxième but pour le Stade Malherbe de Caen. Oh, oh. Le corner qui est frappé par Johan Cour. Je crois bien que c'est encore Alexandre Mendy qui vient mettre sa tête au deuxième poteau. La course d'élan, il s'élance, il frappe, il marque. Ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour le Stade Malherbe. Et c'est le coup du chapeau pour Alexandre Mendy. 3-0 après 37 minutes. Chamal, la frappe du gauche. Lui, le voilà, le quatrième. Oh là, ici sur RMC, 4-0 pour le Stade Malherbe. On est parti d'un corner pour Rodez. Boxé des deux points par Rio. Le contre parfaitement amorcé. La justesse de passe d'Anthony Gonsalves.
Voilà, c'était hier soir sur RMC lors du Multiligue 2 avec Benoît Boutron. Bonsoir Stéphane Moulin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour revenir donc sur cette première réussie avec Caen face à Rodez lors de cette première journée. Une victoire 4-0 devant plus de 7000 personnes hier dans votre stade. J'imagine que vous avez savouré ça devant le public.
Évidemment, parce qu'une première, c'est toujours un peu particulier. En plus, une première avec nos spectateurs dans le stade. Donc, c'était bien de réussir ce premier match de championnat pour le club, mais aussi pour les gens qui sont revenus au stade. On l'a senti dès le départ. Il y avait une belle énergie. On a senti que les gens étaient heureux d'être dans le stade. Et évidemment que le scénario avec l'ouverture du score rapidement n'a fait que les encourager, à nous encourager. Donc, c'était une belle soirée.
L'homme du match, évidemment, c'est Alexandre Mendy. Triplé d'Alexandre Mendy. Ça doit vous faire plaisir parce qu'il est passé par des moments compliqués. Vous n'étiez pas à Caen à l'époque, mais vous avez forcément suivi ça.
Oui, il est arrivé sans préparation l'année dernière, et comme il arrivait d'un club de Ligue 1, on a toujours tendance à penser qu'il allait faire la différence, mais en fait je pense qu'il n'en avait pas forcément les moyens physiques, et il est rentré dans une mauvaise dynamique, voilà, ce qui fait qu'il a marqué que 4 buts dans sa saison, et qu'hier soir il en a déjà marqué 3, donc voilà, pour lui c'était une bonne soirée aussi. On est aussi content quand les attaquants marquent des buts, parce qu'on sait, très bien l'importance qu'ils ont dans une équipe, et que avec la confiance on peut vraiment faire de belles choses.
C'est vrai qu'on regardait, Fred, le parcours d'Alexandre Mendy, qui est particulier. Ouais. Il n'était jamais resté 2 saisons de suite dans le même club. C'est la première fois avec Caen qu'il reste 2 saisons de suite. Évidemment, un peu plus de stabilité. La plupart du temps, il a été longtemps prêté. Il est passé par Nice, Guingamp, Bordeaux, Brest également. Forcément, ça joue, ça. Quand tu as besoin de stabilité, notamment quand tu es attaquant.
Tu as besoin de stabilité, tu as besoin de confiance, sûrement comme le coach l'a dit. Et ça aussi, ça joue énormément. Même si on a des difficultés dans un club et qu'on part comme titulaire et que le coach vous donne toute cette confiance, et ben on a envie de lui prouver que cette confiance est de lui accorder. Et au bout de 20 secondes, il a mis Caen, en tout cas, sur les rails, et il a mis la barre très très haute. Alors, moi j'ai juste une petite question, coach. Est-ce que vous faites des causeries à la fin du match, parce que c'est pas tous les coachs qui le font, et qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs?
Je dis toujours un petit mot à la fin du match, que le résultat soit positif ou négatif, parce qu'ils ont besoin de ressentir un petit peu justement ce qu'on pense de la prestation. Donc ce qui a été dit, c'est très simple, c'est que ils ont très bien travaillé au cours de ces 5 semaines. Il y avait beaucoup d'attentes et à la fois beaucoup de questions, et je trouve qu'ils ont donné les bonnes réponses sur le terrain, mais simplement c'est la récompense de leur investissement au cours de ces 5 semaines de travail. Pas facile pour eux, parce que évidemment ils sortaient d'une fin de saison, même si elle a été heureuse sur le dernier match, très mouvementée, très perturbée, et que avec les mêmes joueurs, parce que au lendemain de départ il n'y avait pas un seul joueur de nouveau dans cette équipe là. Donc je leur ai dit simplement que c'était la récompense de tout leur investissement et tout leur travail, mais qu'il fallait rester mesuré et pondéré. Il fallait savourer, mais que bon voilà, c'est un match et que la saison ne fait que commencer. Évidemment, ne pas penser que ça va être la fête comme ça tous les week-ends.
Oui, alors effectivement, vous avez parlé de cette difficulté la saison dernière pour Caen, qui a failli descendre, et vous avez pris un groupe. Il a fallu, j'imagine, redonner confiance à ce groupe. Est-ce que ça a été votre première mission véritablement, redonner confiance à ce groupe?
Franchement, oui. Au travers tous les entretiens que j'ai pu avoir avec eux, qui ont été nombreux de manière individuelle, c'est ce qu'on a ressorti. C'est un groupe un peu traumatisé par ce qu'il a vécu. Malgré, encore une fois, l'issue heureuse de la fin de saison, ils ont quand même vécu depuis 3 saisons maintenant des saisons difficiles, et que la priorité des priorités, c'était de leur faire comprendre que ils étaient évidemment en partie responsables, mais que on allait laisser le passé derrière nous, et que on allait s'attacher à essayer de redonner confiance à chacun d'entre eux, et en tout cas essayer d'en tirer la quintessence pour qu'on essaye tous ensemble de donner un nouvel élan à cette équipe et à ce club.
Stéphane Moulin, entraîneur de Caen, en direct dans le RMC Football Show. Fred, tu avais une question.
Oui, vous avez retrouvé votre duo avec Olivier Piqueux, et je voulais savoir si lui aussi, à travers ses réunions individuelles ou même collectives, est très impliqué dans la manière de reconstruire le groupe, et aussi de redonner confiance à vos joueurs.
Disons qu'il a un rôle différent que celui qu'il avait à Angers, puisqu'il est président. Donc non, après évidemment que chacun son rôle. Cette confiance, lui, il essaie de la redonner d'une manière beaucoup plus globale au club en général. Après, ce qui est la partie sportive, évidemment que c'est plus mon rôle, et évidemment qu'il est à 200% derrière moi sur tout ce que j'ai pu dire à ces garçons-là de manière individuelle et collective. Mais évidemment que lui, il a un autre rôle à jouer de manière beaucoup plus globale, sur l'ensemble du club, où il faut que toutes les composantes du club se remobilise pour que, comme il l'a dit, le projet de l'an zéro, c'est cette année, et que tout le monde tire dans la même direction.
Et il vous a fixé un objectif pour cette saison? une remontée immédiate plusieurs années.
Non, mais ça va être difficile. Vous savez, on peut pas comme ça finir 17e une saison et puis d'un seul coup se retrouver l'année d'après dans les premières. Voilà, c'est difficile. Bon, maintenant je connais le projet. C'est pour ça que je suis venu. L'objectif de cette année, c'est de vivre une saison où tout le monde retrouve plaisir, goût au travail, goût à la victoire parce qu'il l'avait un peu perdu, et puis que chacun reprenne confiance pour qu'on puisse ensuite se donner des objectifs réalistes. Je crois qu'il serait pas très très objectif de se donner un objectif qu'on ne pourrait pas forcément atteindre. Donc je crois que hier soir c'était un petit peu ce sens-là, c'est-à-dire que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à venir au stade, les joueurs ont pris du plaisir à jouer, et puis nous on a pris du plaisir aussi à les regarder. Voilà, c'est un travail collectif et on repart sur quelque chose de nouveau, et puis je crois qu'au fil de la saison on verra bien l'objectif qu'on pourra se donner, mais pour l'instant voilà, beaucoup d'humilité malgré cette victoire parce que il faut oublier le passé sans l'oublier.
Alors vous avez dit d'ailleurs que c'est vrai que c'était quasiment la même équipe parce qu'il y a eu un recrutement très léger à Caen
jusqu'au 31 août.
Voilà, il y a encore du temps peut-être que vous avez d'ailleurs quelques manques et noté quelques manques. Est-ce que vous allez travailler sur ce mercato avec Olivier Piqueux justement?
Oui, on y travaille. Après il y a une équation difficile à résoudre, c'est que le club avait des petits soucis financiers liés au ces trois années difficiles depuis la descente en Ligue 1. Donc l'objectif c'est de réduire un petit peu les problèmes qui ont pu exister, mais de rester compétitif. Ouais. Donc c'est pas simple tout ça, mais pour vraiment avoir un groupe compétitif, il nous faudrait un défenseur central supplémentaire parce qu'on n'est pas très pourvu dans ce secteur de jeu. Et puis un milieu de terrain offensif côté, parce que malheureusement on a perdu l'un des joyaux du Stade Malherbe qui s'appelle Kélian Nsona, qui est une rupture des ligaments croisés, et c'est une grosse perte pour nous. Donc il faudra le remplacer parce qu'il sera présent que sur la deuxième partie de championnat. Donc voilà, à partir du moment où on arriverait à recruter deux joueurs supplémentaires, on pourrait considérer qu'on a un effectif qui va tenir la route pour la saison. Là, on a de la qualité, mais bon, après, on est encore un petit peu juste en termes de nombre. Après, voilà, on verra ce qu'on sera en mesure de faire, capable de faire. Moi, je réclame rien de précis. Je sais où je suis, je sais pourquoi je suis venu, et à partir de là, je sais aussi que je vais faire avec l'effectif qui est à ma disposition.
Oui, coach, j'ai regardé un petit peu aussi ce qui se passait dans le centre de formation. Il y a entre les 19 ans et même la réserve, il y a un bon vivier aussi. Alors peut-être que vous allez trouver votre bonheur dans ces joueurs-là.
Bah vous savez, déjà, on est parti en stage avec 24 joueurs, et sur les 24 joueurs, il y avait 14 joueurs de moins de 21 ans, ce qui est énorme. Jamais vécu ça. Donc bon, après, la jeunesse, il en faut, parce que voilà, c'est l'avenir, mais il faut aussi qu'on trouve un certain équilibre. En tout cas, si on veut avoir des objectifs élevés, il faut avoir des groupes équilibrés. C'est pour ça que moi, j'apprécie énormément les jeunes, mais on en a déjà beaucoup, et que on a besoin, pour renforcer l'équipe, d'avoir des garçons qui ont un minimum d'expérience.
Alors justement, puisque vous ne découvrez pas la Ligue 2 évidemment, mais vous la redécouvrez après votre passage à Angers, que vous avez réussi à stabiliser en Ligue 1, parfois, sans vous manquer de respect évidemment, mais à Angers on disait qu'il y avait, c'était pas forcément du football champagne en Ligue 1, qu'il y avait d'autres valeurs bien sûr, comme la solidarité, le combat, etc. Est-ce que le Stéphane Moulin de Caen va être différent du Stéphane Moulin d'Angers? C'est-à-dire que peut-être qu'on peut jouer différemment
dépend,
en Ligue 2.
Ça dépend l'étiquette que vous allez me coller. Tout dépend. Voilà. Parce que la première année, en fait, quand on était en Ligue 1, on a recruté que des joueurs de Ligue 2 parce qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Donc on a fait une équipe avec des joueurs de Ligue 2 en Ligue 1. Donc c'est compliqué de faire du beau football avec des garçons qui n'ont pas forcément du talent, parce que ça coûte cher le talent. Et on m'a laissé cette étiquette-là tout le temps, alors que depuis 3 ans, je crois que l'équipe a changé. On a changé de système, on a changé de joueur. L'année dernière, tout le monde, malgré tout, s'est accordé à reconnaître que le style de l'équipe avait changé. Mais vous voyez, vous m'en parlez encore, donc tout dépend de ce que
non,
on va dire.
Non,
vous voyez, quand
tout.
On gagne 4-0, on peut pas dire que l'équipe a
joué, justement. Mais parce qu'il y a certains coachs qui disent qu'on ne peut pas jouer de la même façon en Ligue 1 et en Ligue 2. Là, c'est pas moi qui le dis.
Bien sûr que si.
C'est par exemple Jean-Marc Furlan qui l'a déjà dit à plusieurs reprises, que c'était compliqué lui d'installer sa philosophie de jeu en Ligue 1 et que c'est plus facile pour lui en Ligue 2. Vous ne partagez pas ce point de vue, vous dites qu'on peut jouer...
Non, je dis juste que l'adversité est beaucoup plus importante en Ligue 1, parce que quelle que soit l'équipe que vous rencontrez en Ligue 1, elle est forte, ouais. Et que ce championnat est difficile, et que quand vous avez des moyens, et c'était le cas à Angers, je m'en suis jamais plaint parce que j'ai adoré les années passées à Angers. Quand vous avez toujours le 18e, le 19e ou le 20e budget de Ligue 1, bah, c'est compliqué de, vous voyez, c'est compliqué de,
bien sûr,
de faire, bah voilà, donc on fait avec les moyens dont on dispose, mais l'équipe quand même, quoi qu'on en dise et quoi que qu'il en ait été dit ou écrit, l'équipe a toujours évolué et progressé sur le plan du jeu pour arriver, je trouve, l'année dernière à un jeu qui était à des périodes, vous savez, on gagne pas à Rennes, on gagne pas à Lille, comme ça par hasard, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et voilà, je trouve qu'on a montré de très belles choses dans le jeu, mais c'est dur quand on a une étiquette de se l'enlever ou de nous l'enlever.
Ah, ça, c'est, bon, de la,
c'est comme ça, c'est
de la faute des journalistes.
Pas très grave. Moi, je sais ce que je fais. Je sais que les gens qui nous suivent régulièrement savent comment ça se passe et que, bon, vous savez, l'année dernière, j'avais plus qu'un joueur qui faisait plus d'un mètre 90. On disait qu'on était encore très fort sur coup de pied arrêté. On a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté dans l'année. Donc,
c'est pas moi qui ai dit
bon.
Ça. Mais,
non,
mais
c'est, j'ai pas dit
non,
ça.
Non, mais c'est
juste
Stéphane,
que
vous avez raison. Voilà. Non, mais vous avez raison. Tout à fait. C'est vrai que les étiquettes sont difficiles parfois à décoller. Et vous avez raison. Il y a eu aussi du jeu à Angers. Fulgini, notamment, est un superbe joueur qui a amené aussi.
Dans une équipe qui ne jouerait pas au football, il serait pas brillant.
Voilà,
mais
cette touche technique à Angers, effectivement. Mais moi, c'était surtout sur ce côté-là. Est-ce que la Ligue 2, on peut se permettre peut-être de jouer différemment qu'en Ligue 1? Voilà, c'était uniquement ça. Alors, le sens de ma question, c'est pas du tout par rapport à vous.
On est parti sur un 4-2-3-1 où on va essayer d'avoir le ballon, on va essayer évidemment de marquer des buts le plus possible. Ça a bien démarré, les matchs de préparation se sont bien passés aussi. On va essayer de poursuivre dans cette voie-là. Après, encore une fois, ça dépend des forces dont vous bénéficiez et de ce que vous avez. Voilà, après, est-ce que c'est plus facile de... Ce que je sais, c'est qu'en Ligue 1, l'adversité est beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte. Mmh. Donc, il est difficile pour des clubs comme Angers, comme Brest, tous ces clubs-là, c'est difficile d'imposer parfois quelque chose à l'adversaire. Quand je parle de Lyon, Paris, Monaco, Lille, vous avez beau vouloir jouer. Quand vous tombez sur plus fort que vous et vous n'avez pas le ballon, bah, il faut s'organiser pour le récupérer.
Ouais, mais de toute façon,
en Ligue 2, les différences sont beaucoup moins, à mon avis, sont beaucoup moins fortes.
Important.
C'est beaucoup plus homogène. Donc, d'un autre côté, je pense qu'effectivement, il est quand même plus facile, pour moi en tout cas, le rapport de force est beaucoup moins déséquilibré en Ligue 2 qu'en Ligue 1.
Et puis de toute façon, coach, le maître mot quand même, c'est l'adaptation. Je pense que depuis Châtellerault, vous êtes adapté à chaque situation et à chaque effectif, chaque match est différent. Et on le sait très bien. Quand on est coach, on va s'adapter à l'adversaire, on va s'adapter à son effectif qu'on a en place le jour J, parce que c'est pas forcément le même effectif qu'on a la semaine d'avant. Il peut avoir des blessés dans la semaine, il peut avoir certaines choses. Donc oui, l'étiquette, elle est difficile à enlever parce qu'on va sûrement vous demander beaucoup avec Caen et que vous avez fait une performance exceptionnelle et fabuleuse hier soir, mais finalement, sait aussi qu'il y aura du relâchement, enfin pas du relâchement, mais des matchs difficiles dans la saison et qu'il va falloir faire le dos rond et enchaîner les points pour
faire la saison possible. On ne fait pas partie des équipes au départ qui sont concernées par l'accession. On sait qu'il y a bien plus fort que nous, ouais. Mais bon, rien ne nous empêche quand même d'exister dans le championnat.
Alors, juste une dernière question, Stéphane Moulin, c'est encore une question d'étiquette, parce que moi, vous avez l'étiquette, selon moi, d'un coach de Ligue 1.
C'est le deuxième prénom de François Étiquette.
Non, mais vous aviez l'étiquette d'un coach de Ligue 1. Et là, vous l'enlevez pour redescendre d'un cran, pour aller en Ligue 2, comme d'ailleurs Thierry Laurel a fait également avec Strasbourg. Et c'est vrai que c'était une petite surprise pour pas mal d'observateurs de vous voir reprendre ce projet, même si c'est un beau projet, avec Caen, de redescendre d'un cran. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir un autre club en Ligue 1, ou est-ce que c'est vraiment le projet qui vous a convaincu avec Olivier Piqueux?
Non, j'avais deux possibilités pour aller dans un club de Ligue 1. Mais moi, je suis pas, je l'ai toujours dit, je suis pas carriériste. C'est pas un manque d'ambition, c'est que je vais là où je me sens, je pense que je vais pouvoir m'exprimer le mieux. Voilà, donc j'ai estimé que le projet qui me correspondait le mieux, c'était celui-là. Et après, ce que j'ai expliqué aussi voilà, les, je crois que nos choix nous appartiennent et que et qu'en fait, moi je vis pour être heureux. Mmh. Et c'est pas le niveau qui me rend plus heureux ou l'aspect financier qui me rend plus heureux,
c'est vivre
mon métier avec passion.
Mais
avec,
c'est ce que vous pouvez bâtir aussi.
Voilà.
C'est ça, exactement. Ça fait plaisir.
Exactement. On a fait ça à Angers dans des conditions avec Olivier Piqueux.
Le centre de formation et le centre d'entraînement.
Ouais. Et j'ai le sentiment qu'on peut reconstruire quelque chose. Je vais pas dire à l'identique, mais en tout cas dans la même philosophie. Et ça me plaît.
D'accord. Bah écoutez.
Voilà. Simplement.
Merci beaucoup en tout cas Stéphane Moulin. Juste je précise qu'à 19h on sera avec Gérald Baticle qui a pris votre succession sur le banc d'Angers.
Voilà. On cherche un défenseur central et un milieu offensif de côté.
À Caen, il l'a dit Stéphane Moulin. Et qu'il y aura du jeu à Caen cette saison. Hein, c'est une promesse Stéphane
Moulin.
Merci
coach.
Merci beaucoup. Prochain match à Niort samedi prochain 19h, ça sera à suivre en direct sur RMC bien sûr. À bientôt Stéphane Moulin. Tout de suite le Mercato Show. Les dernières infos du Mercato, c'est tout de suite dans le RMC Football Show. Restez bien avec nous.
RMC Football Show. François Pignet.
Il est 18h50 sur RMC, le RMC Football Show qui continue jusqu'à 20h avec Fred Piquion. Dans 15 minutes, on sera avec Gérald Baticle qui a pris les commandes du SCO d'Angers, qui sera en direct avec nous à moins de 2 semaines du début du championnat de France. Ses objectifs, le mercato, sa nouvelle vie d'entraîneur principal, il nous dira tout, c'est promis. Et si vous êtes supporter d'Angers, vous pouvez venir dès maintenant au 32-16. Mais juste avant, ce sont les infos mercato du jour, comme tous les soirs à cette heure-là.
RMC Mercato Show.
Avec Kevin Gasser cette fois. Salut Kevin.
Salut François, salut Fred, salut à tous.
On va commencer par une info qui concerne un international français, Raphaël Varane.
Oui, et Raphaël Varane à Manchester United, ça brûle. Le club anglais et le Real Madrid sont tout proches d'un accord. Les négociations s'intensifient depuis plusieurs heures. Le joueur est d'ailleurs d'accord déjà avec le club anglais. Et selon nos informations, la transaction avoisinerait entre 45 et 55 millions d'euros pour un contrat de 4 ou 5 saisons. Le club madrilène a donc revu ses attentes à la baisse parce que le Real réclamait d'abord 80 millions pour le défenseur français. Et la signature pourrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine.
Fred ? Varane, bon, tu auras l'occasion d'en reparler mais c'est
une bonne idée. Après, moi, ce dont j'avais peur, c'est l'intensité que peuvent mettre en tout cas les attaquants anglais. Et quelquefois, Varane, il est un petit peu en dedans. Donc, même s'il y a Maguire à côté, il va falloir qu'il augmente en tout cas l'intensité qu'il peut mettre dans ses matchs.
Tu sais ce que c'est, t'as vécu aussi le championnat d'Angleterre et tu le suis pour RMC Sport également. Un mot aussi de l'Olympique de Marseille, puisque c'était promis pour les supporters marseillais. Dans un instant, on aura Sébastien au 32-16. Une bonne nouvelle pour Sébastien et les supporters.
Oui, c'est une information. RMC Sport, le latéral droit de la Fiorentina, Paul Lirola, sera bientôt un joueur de l'OM. Il reste que quelques détails financiers à régler entre les deux clubs pour boucler le transfert du latéral droit. On le sait, déjà prêté en janvier dernier par le club italien. Alors Lirola a prévenu la Fiorentina de ses intentions de départ. Et c'est pas étonnant parce que l'Espagnol de 23 ans, il se sentait plutôt bien sous le maillot phocéen la saison dernière. Titulaire indiscutable sur son couloir droit. 22 matchs disputés pour 2 buts et 4 passes décisives.
On n'a pas encore exactement le montant que va débourser l'Olympique de Marseille.
300, c'est un prêt de toute manière, non ?
Ah, c'était non, là c'est pour là, justement, c'était pour lever, pour l'acheter directement.
Ou un prêt avec option d'achat.
La dernière fois, c'était un prêt avec option d'achat, mais l'option d'achat était à 12 millions d'euros.
Oui.
Le but du jeu, c'était justement de faire baisser cet argent.
D'accord.
C'est ça, il était retourné au club à la Fiorentina, il a même disputé un match amical et là
l'option avait expiré mais là en revanche
on peut faire encore un autre prêt avec une option.
Je sais pas si c'est pour la Fiorentina si c'est bon ça. Sébastien est au 32-16. Salut Sébastien.
Excusez-moi.
Bon, tu peux dire bonsoir à 18h53, il n'y a pas de problème.
Hein. Disons que je travaille de jour et nuit, donc c'est un peu compliqué pour la saison.
Ah, bon, ok.
Mais pour revenir sur Lirola, en fait, je trouve qu'au niveau du tarif et par rapport aux joueurs, pour moi, il est trop cher. C'est-à-dire que c'est pas un joueur sur qui. Déjà, c'est pas un joueur que j'aimerais garder, moi.
Ah bon? Pourquoi?
Je pense que Lirola, même si c'est un battant sur le terrain, c'est vrai qu'il monte énormément, mais nous, ce qu'on demande à un défenseur, c'est de défendre en premier. Et le problème, c'est que il y a des trous derrière. Même Hiroki Sakai qu'on avait au début, quand il est venu à l'OM, il a eu du mal à s'intégrer, puis après il s'est intégré, et après il a coulé tout simplement. Moi, je pense que Lirola, il était au même niveau que Sakai quasiment. Hein. Donc, je pense que pour ce tarif-là, on peut trouver mieux. Et c'est un peu comme Khaled Akar, que moi je souhaiterais pas garder non plus.
Alors je pense que Kalechakar il va partir, Kalechatsar.
Ben j'espère, parce qu'il faut rentrer l'argent aussi. Beaucoup de gens se plaignent de McCourt. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que McCourt a lâché énormément d'argent pour l'OM, plus de 500 millions d'euros depuis qu'il est arrivé. Et je pense qu'avec cet argent déjà qu'on a lâché, on aurait pu avoir une meilleure équipe. Alors, c'est la première année que moi, je suis l'OM depuis le début, hein, depuis mon enfance. J'ai 40 ans et je peux vous dire que c'est la première année où je n'arrive pas à focaliser mon équipe parce qu'on a tellement fait de recrues, tellement de jeunes qu'on ne sait pas où on va aller en fait. Donc ça m'excite un petit peu dans le sens où justement je me languis de voir un peu ce que ça va donner. Mais sur des joueurs comme Lirola que je connais déjà, si on veut aller en finale de la Ligue Europa, pour moi on ne pourra pas y aller avec un Lirola.
D'accord.
C'est ce que je veux dire. Mais pas un Lirola.
Moi je te trouve un peu dur par rapport à ça. Je te jure parce que tu sais quoi, moi j'étais dans le bureau avec Pablo Longoria, on a bien discuté, on a discuté football. Et moi je pense vraiment.
T'étais dans le bureau avec Pablo Longoria.
Oui.
Non, quand il a signé comment ça?
Pablo Longoria, on a discuté face à face. J'étais dans son bureau, on a discuté.
Ah bon?
Bah oui, il y a quelques temps, il y a un mois à peu près.
Ah oui, mais il faudra que tu nous racontes exactement tout ce qu'il t'a dit.
Bah, je l'ai raconté plein de fois.
Ah bon, d'accord, pardon. Bah, alors vas-y, voilà, c'est autre chose, vas-y.
Non, c'était juste que Paul Lirola, vraiment, c'était une priorité de toute façon de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un joueur qui pouvait évoluer sur le côté. Et aussi dans un petit peu dans le milieu de terrain, à l'image d'un Cancelo à Manchester City. Et moi, je pense vraiment que Lirola a ce rôle-là. Maintenant, ce que tu dis par rapport à défensivement, c'est ce qu'on remarque sur les matchs de l'Olympique de Marseille, même en préparation, c'est que qui doit sortir sur le joueur qui joue sur l'attaquant qui joue sur le côté. Comment Sampaoli va faire pour l'animation défensive de son équipe? Et c'est sur ça, que tu as cette interrogation, parce qu'aujourd'hui sur le côté droit tu vas avoir Saliba. Oui, c'est Saliba qui doit jouer sur le côté droit et un milieu défensif qui doit lui aussi couvrir le joueur qui joue sur le côté. Donc pour moi Lirola fait partie de cette équipe et est un titulaire dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Maintenant c'est à Sampaoli de trouver la bonne solution. Ouais. Est-ce qu'il va jouer à 3, à 4, à 5?
Et a priori
pour le système défensif,
a priori ça sera peut-être un rôle plus offensif pour Lirola d'après ce qu'on a vu en préparation.
Si c'est un rôle plus offensif dans ces cas-là, ça change la donne pour moi.
Ça peut être pas mal, voilà.
Pour ma vue, parce que moi, je pense que c'est un joueur où justement il doit pas être le dernier. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière lui en fait.
C'est peut-être ce qu'a pensé en tout cas Sampaoli, mais il le voulait absolument. Ah oui, et Lirola, ça devrait être donc la prochaine recrue marseillaise. Merci beaucoup Sébastien. À très bientôt sur RMC. Ah, on avait une toute dernière info sur Icardi, peut-être Kevin, en quelques secondes.
Oui, en fait, il y a des contacts qui sont établis entre l'agent d'Icardi, vous le savez, sa femme, son épouse Wanda, et l'AS Roma, le club de José Mourinho. Donc voilà, Icardi qui a jamais vraiment convaincu sous le maillot du PSG, toujours en contrat jusqu'en 2024. Pourquoi pas vers un départ à l'AS Roma.
D'accord. Merci beaucoup Kevin. Merci. D'autres infos bien sûr à retrouver sur rmcsport.fr. Je vous rappelle également que Marseille joue un match de prépa ce soir contre Benfica à 21h, qui aura également Lyon face au Sporting Lisbonne à 21h et Porto-Lille à 20h45. On en parlera bien sûr avec Simon Dutin dans l'after à partir de 22h. Dans un instant, Gérald Baticle, nouvel entraîneur d'Angers, qui est dans le Tour de France des clubs du RMC Football Show. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC Football Show.